Salut tout le monde. Alors cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. On va se poser, on va analyser la vidéo d'une youtubeuse, ou plutôt youtubeuse, qu'on voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, qui nous fait du bon gros agribashing, bien dégueulasse. Donc on va voir ce qu'elle nous raconte, et puis on va détailler ça point par point. Donc si vous voulez bien me suivre, c'est parti.
Il s'appelle Étienne, il est éleveur dans la Sarthe, un agri-youtubeur, beurre comme du beurre, hein, jeu de mots. Et sur sa chaîne YouTube, Étienne l'écrit, mais lui aussi, il est pour le bien-être animal, mais lui aussi, il est pour l'agriculture durable. Alors d'accord, mais attention quand même Étienne, hein, critiquer ce n'est pas nécessairement agribâcher. On va pas ouvrir maintenant le dossier pesticides, ça fait aussi avancer les critiques. Ceci étant dit, l'équation à laquelle font face les agriculteurs est, oui, vertigineuse. Comment produire une alimentation de qualité à un prix acceptable par tous qui permettent aussi de se rémunérer dans le respect de la nature et dans une économie ouverte? Vous avez peut-être vu ce rapport du Sénat? Jusqu'à un quart des produits agricoles importés ne seraient pas aux normes françaises. Donc les agriculteurs, plus aussi forts qu'avant dans l'Hexagone, plus faibles aussi hors de nos frontières. Nous ne sommes plus que le 6e exportateur mondial. Comment faire? C'est la quadrature du cercle. Et pourtant, il nous en faut des agriculteurs. Alors que près d'un sur trois à plus de 55 ans, ils vont prendre leur retraite, ces gens-là. Il faut convaincre les jeunes de reprendre des fermes. Ça aussi, c'est un enjeu. Alors merci à celui qui trouvera le bon modèle économique pour les rémunérer correctement. On a bien compris que la loi Egalim était loin de suffire. Il y a urgence et là, on n'a pas trop le temps de se poser, comme dirait Étienne.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Heureuse de vous retrouver ce samedi 22 février. Le Magéco est réalisé par Coy Nguyen. Valentin Pérez est attaché de production et ce matin, c'est Mathias Alléon qui nous accompagne à la technique. Alors, que faut-il retenir de cette semaine sur la planète éco? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Je salue les deux débatteurs de ce samedi. Bonjour et bienvenue, Béatrice Mathieu. Vous êtes rédactrice en chef à l'Express.
Bonjour à tous.
Et bonjour à vous, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Bonjour.
Alors la planète éco, elle tourne moins rond depuis l'arrivée du coronavirus. On a tous entendu les inquiétudes sur les approvisionnements, l'automobile, les médicaments. On va regarder ça de près, on va faire la lumière sur nos vulnérabilités, on va se poser des questions sur la mondialisation. Béatrice, Christian, je vous retrouve dans un instant pour le débat. Et puis ce matin, on regarde à l'est la Chine et puis on regarde à l'ouest les États-Unis. On a le troisième vote des primaires démocrates dans le Nevada aujourd'hui. Cette course à l'investiture pour la présidentielle américaine, elle donne lieu à des débats électriques et notamment sur le système de santé américain. Aujourd'hui, il est dominé par les assurances privées, il est inégalitaire. Mais est-ce que les électeurs sont prêts à changer? Vous entendrez le reportage d'Isabelle Raymond. Et puis nous aurons le plaisir d'avoir avec nous l'économiste Gabriel Zucman. Il est professeur à Berkeley. Il est conseiller de l'aile gauche des démocrates Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Et il publie avec Emmanuel Saez, son confrère, ce livre « Le triomphe de l'injustice au seuil ». Oui, les milliardaires américains sont moins taxés que les classes moyennes, moins taxés que les ouvriers. Et ça, ça questionne aussi les Européens que nous sommes. Interview avec Gabriel Zucman vers 9h45. Et puis bien sûr au sommaire, Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Ce matin, coup de projecteur sur un rapport qui ne sort pas d'un tiroir. Je ne vous en dis pas plus, ce sera juste avant 10h. Mais tout de suite, les conséquences du coronavirus, premières réflexions économiques.
Février 2020.
Une épidémie qui, évidemment, ralentit toute l'économie mondiale.
All over the world who would be impacted by this economically.
Des conséquences économiques très loin de la Chine.
On est inquiet du côté des marchés qu'il y a une forme de propagation.
Comment se va ver afectada la economía china y global por el coronavirus?
Et aussi, ça pourrait avoir de l'impact sur la chaîne d'approvisionnement mondiale.
Ce virus,
Bruno Le Maire,
aura évidemment un impact réel.
Ministre de l'économie.
Si on estime que le pic est atteint ou près d'être atteint, nous, notre évaluation, c'est que l'impact sur la croissance chinoise sera de l'ordre de 1 point en moins pour la Chine sur l'année. C'est-à-dire un chiffre important. Ce qui voudra dire 0,2 point de croissance en moins au niveau mondial et 0,1 point de croissance en moins pour la France.
Pour beaucoup de PME, TPE,
Alain Bantéjac,
la situation risque d'être très rapidement difficile.
Président des conseillers du commerce extérieur de la France.
On a fait une petite enquête auprès de 500 entreprises françaises présentes en Chine et on a identifié quand même un bon nombre d'entre elles, notamment des PME, qui ont des besoins de trésorerie à très court terme, qu'on chiffre aujourd'hui à environ 75 millions d'euros.
La France,
Anna Boata,
on a la chance de ne pas être parmi les top 20 pays les plus exposés d'un point de vue exportation.
Directrice de recherche macroéconomique chez Euler Hermès.
Mais clairement, il y a quand même 5 milliards d'euros dépensés par les touristes chinois chaque année en France. Donc on peut aussi envisager un manque à gagner de 1,5 milliard par mois.
Si ça dure trop longtemps avec une ampleur, avec une contagion,
Éric Heyer,
là, ça peut être une énorme crise.
Économiste à l'OFCE.
Mais vous voyez, en économie, on aime bien se référer au passé pour essayer de comprendre l'avenir. Et donc on a un peu le SRAS en tête en 2003. On s'est bien rendu compte que tout de même, quand c'était relativement bien circonscrit, ça a vraiment fortement chuté sur un trimestre et que ça avait quasiment rebondi le semestre suivant.
On voit que les États-Unis ne voudront pas faire de cadeau très clairement à la Chine.
Alexandre Baradé.
Voire même, peut-être exploiter cette phase-là.
Responsable analyse et marché chez IG France.
Pour rapatrier de l'activité économique sur le territoire américain, c'est ce qu'a déclaré le secrétaire au commerce, Paul Burros, hein, que cette épidémie pouvait être l'occasion de rapatrier, pour reprendre ces termes, de l'activité sur le sol américain.
Eh bien, nous allons commencer, comme d'habitude, par faire la photographie. La découverte de ce nouveau virus, c'était le 9 janvier, Christian Chavagneux. Depuis, quelles conséquences économiques ?
Alors, un petit tour macroéconomique d'abord sur la Chine et puis sur le monde. Sur la Chine, on se rappelle que c'est à Wuhan, hein, dans la province du Hubei, qui est 4% du PIB chinois. Donc, c'est pas négligeable. Mais en tout, il y a 48 villes et 4 provinces qui ont annoncé des mesures diverses de confinement de la population et donc de fermeture des usines. Donc, ça a quand même un impact sur la Chine assez important. Localement, évidemment, la production, on nous dit qu'entre la moitié et un tiers de la production habituelle est en place à la mi-février. On espère un peu plus hier, parce que les estimations datent d'hier, plutôt 70%, et peut-être une reprise début mars à peu près partout. Si c'est ça, l'impact sera relativement limité, parce qu'aujourd'hui, évidemment, le transport, la distribution, le commerce de détail, tout ça est bien bloqué, parce que les gens, vous avez quand même plus de 60 millions de personnes, rien que dans la province, qui restent bloquées chez eux. PIB du pays, j'ai regardé les différentes estimations.
Produit intérieur brut, richesse
produite, ouais, croissance entre 0,5 et 1 point de croissance perdu sur l'année, mais effet de rattrapage pour 2021, parce que c'est une fameuse courbe en U, vous savez, ça plonge, et puis après, ça repart vite, parce qu'on rattrape, en fait, ce qui
s'est
passé.
C'est ce qu'on avait vu pour le SRAS, hein, Béatrice, c'est ça, en 2003?
Ouais. C'est ce qu'on a vu pour le SRAS, oui.
Mais sur le SRAS en 2003, l'impact, c'était 0,1 point sur la croissance. Alors que là, on dit que pour la Chine, ce sera un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui diffèrent entre le SRAS de 2003, la Chine du SRAS de 2003 et celle du Covid-19 ou coronavirus d'aujourd'hui. Beaucoup plus de personnes infectées aujourd'hui. 8000 cas et 800 morts en 2003, 70000 cas, 2000 morts aujourd'hui. La Chine pèse 4 fois plus dans le PIB mondial qu'en 2003 et elle est beaucoup plus présente dans les fameuses chaînes de valeur mondiales, là où les entreprises vont s'installer sur les différents territoires pour produire. Consensus autour de 0,5 point de croissance perdu en 2020.
Pour la Chine.
Au niveau mondial, cette fois on est entre 0,5 et 1 pour la Chine, 0,5 au niveau mondial. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 canaux de transmission. Le recul de la demande chinoise, bien sûr, hein, la Chine consomme moins. Le recul du tourisme chinois, plus de 150 millions de personnes qui vont se balader et qui vont acheter des produits partout dans le monde. 280 milliards de dépenses par an, les Chinois. Et là, il y en a beaucoup qui vont rester chez eux. Et enfin, le recul de la production mondiale, puisqu'il y a plusieurs secteurs, on va en parler, affectés par l'impossibilité de produire sur place. Et même quand il y a de la production, même si vous arrivez à produire sur place, aujourd'hui, il y a un vol sur 5 entre la Chine et le reste du monde. Et quand vous arrivez à avoir un vol, j'ai eu l'information dans la presse japonaise hier, le prix du cargo Francfort-Shanghai a été multiplié par 3. Donc très très difficile de produire et même quand vous arrivez à produire,
les coûts de transport sont terribles. Béatrice, ben on va en parler justement de ces secteurs. On entend des industriels qui s'inquiètent. Est-ce que vous pouvez, et notamment en France, hein, pouvez-nous faire cette photographie-là ?
Alors évidemment, quand on parle de la Chine, on pense tech, on pense technologie. 55% de la production mondiale des écrans de salon et des écrans d'ordinateur vient de Chine. Or, il y a 25% seulement de cette production qui est destinée au marché intérieur. Donc tout le reste est exporté. On pense aussi évidemment textiles, produits de consommation. Il faut penser aussi automobile. Et là, pourquoi c'est important ? Parce que cette région du Hubei et notamment Wuhan, c'est un très très gros centre de production automobile. C'est là où il y a Dongfeng qui est le deuxième producteur chinois, et donc des kyrielles de sous-traitants. Il faut penser aussi médicaments. On le voit pas souvent, mais en fait aujourd'hui, une grande partie, 80% en fait des sous-produits en fait utilisés pour les génériques viennent d'Asie.
Nous sommes très dépendants d'Asie, le médicament. Voilà.
Donc en fait, il y a plein de secteurs qu'on ne pense pas forcément en fait qui sont aujourd'hui impactés. Et ce que l'on voit, ce qui est aujourd'hui révélé, c'est cette forme de mondialisation qu'on trouvait évidemment très bien, c'est-à-dire que qui s'est développée au tournant des années 2000, c'est-à-dire que les multinationales ont saucissonné, ont éclaté leur chaîne de valeur en prenant un sous-traitant en Asie, un autre en Turquie, une usine d'assemblage ici, une usine ailleurs. Tout ça pour, à chaque étape, en fait, gagner un euro, un dollar de plus sur les coûts de production. Et finalement, tout allait bien parce que les coûts de transport, on s'en fout un petit peu parce que ça, le transport coûtait rien, parce que la problématique carbone, coût du carbone, n'était pas présente. Et donc là, aujourd'hui, on prend un petit peu la mesure en fait de cette fragilité de cette mondialisation parce que justement ces chaînes de valeur sont très éclatées et c'est très vrai aujourd'hui dans l'automobile, on pourra y revenir.
Et oui, parce que l'automobile c'est le secteur le plus mondialisé pratiquement de l'ensemble de l'industrie et donc évidemment c'est celui qui est le plus touché. La province dont on parle, on appelle ça le Détroit chinois, c'est-à-dire le Détroit c'est là où
Détroit.
Aux États-Unis, Detroit, le Chinese Detroit pour vous faire plaisir à votre formation américaine Alexandra. On y produit autant de voitures qu'en France dans ce petit bout de territoire. Hyundai a annoncé, par exemple, le Sud-Coréen, l'arrêt de la production de voitures, parce que ce qui venait de Chine ne pouvait plus venir. Renault, PSA, Valeo, l'équipementier, sont présents aussi. General Motors vend deux fois plus de voitures en Chine qu'aux États-Unis. Donc, vous avez tout le secteur automobile qui est quand même relativement plombé. La high-tech, Apple nous a dit, je vais pas pouvoir amener les téléphones. Parce que ce qui est, non pas que la valeur ajoutée soit produite là-bas, mais l'assemblage est là-bas. Et donc, Apple se retrouve sans téléphone. Béatrice l'a dit sur la pharmacie, l'aviation, 13% de baisse du chiffre d'affaires estimé par les professionnels parce que les Chinois se déplacent plus en interne et à l'international. Textile enfin, H&M et Zara se disent mais notre nouvelle collection, la collection automne-hiver.
Oui, ces fameuses collections qui arrivent très régulièrement.
Et ben là, ils ne l'ont pas. Ils se disent si ça revient en mars, ça ira, mais si ça se prolonge un peu plus, et là, il faut le dire quand même qu'a priori, le virus est en train de tomber. Hein. On a de moins en moins de cas.
On a un peu de tension en Italie, là, un peu de tension en Europe, mais c'est vrai qu'il paraît qu'il y a moins de cas.
Mais il paraît que là-bas, il y a moins de cas si les stats des autorités chinoises sont fiables.
C'est
un autre problème.
Béatrice. Oui, la question, en fait, ce sont les sous-traitants. En fait, les sous-traitants de premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième rang. Et en fait, on a des très, très grosses entreprises qui, en fait, ne savent même plus d'où vient
le boulon machin
ou la clé de 12 qui servait à, voilà. Et donc, prenons juste le cas d'Apple. Sur les 200 plus gros fournisseurs d'Apple, il y en a 41 aujourd'hui qui sont chinois. C'est 3 fois plus qu'en 2012. Alors même que, sur cette même période, le nombre de fournisseurs américains a baissé de près de 30%. Donc on voit bien qu'il suffit qu'un de ces fournisseurs, en fait, tous les salariés soient pas revenus, parce que les usines, en fait, tournent au ralenti. Même celles qui ont redémarré, tournent au ralenti, parce qu'il n'y a même pas un tiers des salariés qui sont revenus.
Oui,
donc, il suffit qu'il y en ait une dans toute cette chaîne de valeur extrêmement complexe, eh ben, pour tout perturber.
Donc, en fait, ce qu'on voit à ce stade de votre débat, c'est que finalement, les inquiétudes macroéconomiques sur la croissance, on dit ça va plonger, ça va remonter, si tout va bien en mars, c'est ce que vous nous avez dit, Christian. Mais peut-être que ça aura des conséquences plus sérieuses sur la stratégie des entreprises. Là, on est dans une période où on a un Trump qui veut de la démondialisation, qui veut rapatrier de l'activité économique. Christian, est-ce que ça peut accélérer cette démondialisation, ce choc?
On a eu le SRAS, on a eu le tsunami à Tokyo, on a eu les printemps arabes. À chaque fois, ces multinationales se sont dit, mais bon, c'est bien peut-être de s'organiser au niveau mondial. Béatrice a expliqué, ça nous permet de gagner de l'argent, mais on prend des risques quand même. On prend des risques. Et du coup, est-ce qu'on voit déjà dans les stratégies des multinationales une petite tentation de, au moins, peut-être pas de se démondialiser, mais d'arrêter de toujours aller chercher cette multiplication des chaînes de production au niveau mondial? Oui, vous avez un ralentissement des investissements directs étrangers vers la Chine, une stabilisation vers les autres pays émergents. Donc on voit que les multinationales ces dernières années disent peut-être qu'on va peut-être aller moins vers ces pays-là. Une stabilisation à l'inverse en effet miroir des importations des pays de l'OCDE, les grands pays riches, en provenance des pays émergents, signe bien qu'on va moins chercher des produits intermédiaires là-bas pour les vendre chez nous. Une croissance de la production industrielle dans les émergents qui ralentit, signe bien aussi que là-bas, tout ce qu'ils vendaient chez nous, ils en vendent un peu moins. Et enfin, vous avez le Fonds monétaire international qui calcule une sorte d'indice de participation à ces fameuses chaînes de valeur globales, et il est plutôt en baisse. Donc oui, on sent qu'il y a une forme de démondialisation industrielle.
Démondialisation ou organisation différente de la mondialisation. mondialisation, Béatrice.
Démondialisation, ou plutôt re-régionalisation, en fait. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que de nombreux industriels se disent, bon, alors, ils font un état des lieux, ils font une photographie, ce qu'on vient de faire. Ils disent, bon, ben voilà, tel fournisseur, on les a là. Hein. Donc, cette photographie, ils se disent, bon, alors, comment aujourd'hui, on peut être moins dépendant de la Chine ou d'une zone? Comment on peut trouver des fournisseurs alternatifs plus près? Comment cette question du coût du transport est intégrée, puisque finalement, si on prend le coût carbone du transport, eh bien, s'approvisionner en Bulgarie ou en Roumanie, ben, ça coûte pas beaucoup plus cher, d'autant plus que les salaires, comparativement à certaines zones côtières en Chine, ben, sont pas forcément si élevés dans certains pays de l'Est. Donc, c'est plutôt une régionalisation plutôt qu'une relocalisation.
Et quand on dit région, Béatrice, c'est quand même
c'est au niveau des continents, c'est au niveau
ça.
Des continents.
C'est la région Europe, la région Asie, la région. Voilà.
Tout à fait. C'est au niveau du continent européen que les choses sont en train de se faire, mais ça prend du temps, hein, parce qu'on trouve pas un fournisseur alternatif ou on construit pas une usine en 3 mois. Mais la prise de conscience, elle est là.
Ce que j'entends, Christian, dans ce que vient de nous dire Béatrice, c'est que c'est pas du tout une relocalisation des usines en France. Faut peut-être pas. Là, on a les Américains qui disent on va rapatrier de l'activité. Alors, je sais pas, peut-être que vous allez nous le dire, peuvent le faire, mais nous, on va pas voir des usines revenir.
Nous, en France, on a, quand on regarde les stats de l'INSEE, on a peu de relocalisation. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu peu de délocalisation. L'INSEE nous dit que parmi les 28 000 sociétés françaises non financières, 5% ont délocalisé leur production. Donc, c'est pas tant que ça. Même si on note une accélération des relocalisations ces dernières années, sauf sur cuir, textile, habillement. Les fans de l'émission savent qu'on a reçu à Noël, il y a une exception, Thomas Hurriez 1083, oui. Producteur de jeans français, écolo, et qui produit tout en 99% en France. Donc il y a des exceptions, mais il y a peu de relocalisation. Et même s'il y a des relocalisations, il y a peu d'emplois, parce que c'est plutôt l'automatisation. Et attention, nous dit El Moumoud, dans les services...
L'économiste de Dauphine, bien sûr, le spécialiste.
Saisie informatique, marketing, conseil, comptabilité, 30% est délocalisable.
Béatrice Mathieu, le mot de la fin pour vous sur cette... Pas de relocalisation en France ou avec peu d'emplois, c'est ça?
Oui. Alors effectivement, s'il y a relocalisation en France, ça sera avec peu d'emplois parce que et donc avec une automatisation des processus de production. Il n'empêche que il faut raisonner quand même continent européen. Et donc la renaissance en fait d'une industrie européenne et notamment de donneurs d'ordre et de sous-traitants au niveau européen est quand même une très bonne nouvelle.
Mais attention, la mondialisation nord-sud est peut-être en baisse, mais la mondialisation sud-sud des pays du sud vers les pays du sud, elle continue. Et la mondialisation des individus, nous, notre lien à l'étranger, continue aussi. Donc c'est pas toute la mondialisation qui est remise en cause aujourd'hui.
Quelques réflexions sur la mondialisation et le coronavirus.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Béatrice, Christian, ce matin, l'actualité, c'est aussi l'avenir de l'Europe. Quelle ambition, quelle priorité? Et puis tout simplement pour les citoyens européens, quelle promesse? Tout cela, normalement, ça se lit dans le budget que les 27 s'accordent pour les prochaines années. Allez, on part tout de suite direction Bruxelles et bonjour Pierre Benazé.
Bonjour.
Vous êtes correspondant de France Inter pour les affaires européennes. Alors, le sujet, évidemment, c'est le montant de ce budget, le montant de l'enveloppe et sa répartition. On avait un sommet exceptionnel depuis jeudi, on savait bien qu'il était dans l'impasse, mais dès hier soir, les 27, Pierre, ont dû constater qu'ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord. C'est vraiment l'échec.
Oui, cet échec à 27, c'est aussi la chronique d'une absence de vision partagée, dans le sens où les tentatives de compromis se sont en fait retrouvées bloquées par les intérêts nationaux. Ça doit surprendre personne, parce que tous les 7 ans, ces négociations, ça revient quand même à des discussions de marchands de tapis, même si les montants sont un peu plus élevés, de prime abord, parce que l'équation de base, ça tourne autour de 1 billion d'euros, c'est-à-dire 1 000 milliards. En l'occurrence, deux types d'intérêts nationaux s'affrontent. D'un côté, les économes, ceux qu'on a affublés du sobriquet de pays frugaux, les Danois, Néerlandais, Suédois, Autrichiens. Ils n'ont pas démordu de leur ligne rouge tout au long de ce sommet, à savoir leur refus de voir le budget commun dépasser 1% du revenu national brut. Et ils se sont tellement serrés les coudes qu'ils n'ont même pas participé aux traditionnelles réunions bilatérales, comme on les appelle ici, qui ont constitué l'essentiel de ce sommet. Ces réunions où chaque chef d'État et de gouvernement rencontre individuellement l'un ou l'autre homologue, À chaque fois, ils se sont déplacés tous les quatre en groupe serré. Et dans le camp d'en face, vous avez 17 pays qu'on surnomme amis de la cohésion, qui se sont rebaptisés hier les amis de l'ambition, emmenés pendant ce sommet par le Portugal et l'Espagne. Eux, ils réclament que le budget européen joue son rôle traditionnel de solidarité qui permet aux régions en retard de développement de rattraper les autres. Et eux, ils réclamaient un budget supérieur d'au moins 75 milliards ou 1% du club des frugaux. Et ce sont ces deux visions-là qu'il a été impossible de concilier finalement.
Et ce matin, Pierre, la première conséquence, c'est qu'Emmanuel Macron est arrivé à Paris au Salon de l'Agriculture et il n'avait pas de compromis, d'accord sur la politique agricole commune à présenter.
Bah, Emmanuel Macron, en fait, il défendait lui aussi en partie un intérêt national, parce que parmi ses priorités, la politique agricole commune, c'était la première ligne. La proposition de compromis que Charles Michel, le président du Conseil européen, proposait pour la PAC, c'était un montant de 329 milliards pour 7 ans. Alors, suivant les modes de calcul, on peut en débattre, c'est en gros 15% de moins que le budget actuel, même si Charles Michel avait ajouté 5 milliards à la proposition initiale, celle de la Commission européenne. C'est quand même une portion conséquente sur les quelques 1095 milliards de l'enveloppe totale proposée, mais pour la France, c'était absolument pas acceptable. Emmanuel Macron s'est retrouvé à jouer un peu la même partition pour la défense de la PAC que Jacques Chirac ou François Hollande lors des deux dernières négociations budgétaires. L'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Pologne partagent cette préoccupation agricole française, mais le sommet d'hier montre qu'un important travail diplomatique reste à faire pour convaincre le reste des 27.
En effet, un important travail diplomatique. Pierre Benazé avec nous depuis Bruxelles. Béatrice Mathieu, est-ce que c'est psychodrame as usual, business as usual, comme d'habitude, ou c'est plus grave là ?
Non, c'est plus grave parce qu'on a quand même un décalage énorme entre des ambitions d'une nouvelle présidente de la Commission qui ont été présentées en septembre, qui étaient extrêmement ambitieuses. C'est le Green Deal, c'est le Fonds européen de la défense, c'est la sécurité, c'est l'innovation. Et quand on passe effectivement à la mise en musique financière de ces grandes ambitions, là c'est le vide terrible. Ouais. Avec d'un côté effectivement ce qui était très bien dit, ces pays frugaux qui sont restés inflexibles à la fois sur l'enveloppe globale, mais pas que, inflexibles sur la fin des rabais, ne voulez pas, avec le regard bienveillant de l'Allemagne qui a, d'ailleurs Merkel a commencé le Conseil européen en disant « moi je veux garder mes rabais ». Par ailleurs,
oui, et elle n'en a pas démordu.
Et inflexible aussi sur la question qui tenait beaucoup à la France, la question des ressources propres. Parce que la France est arrivée en disant « bon bah d'accord, vous voulez pas mettre beaucoup plus d'argent sur la table, mais il faut qu'on retrouve ensemble des ressources propres ». Il y avait un plan qui avait été très développé par la France, notamment sur la question de la compensation carbone, notamment sur une taxation sur les déchets plastiques. Et là, c'est frugaux, on dit « nine ».
D'accord, et voilà, et on en reste là. On va voir dans les prochaines semaines comment ça va évoluer, mais en effet, c'est quand même assez grave. Béatrice Mathieu, Christian Chavagneux, merci à vous, les débatteurs de ce samedi. À venir, dans la prochaine demi-heure, c'est notre invité, l'économiste Gabriel Zucman, son analyse des inégalités aux États-Unis, ses réflexions et propositions. Elles irriguent la gauche des démocrates, hein, Elizabeth Warren, Bernie Sanders. Tenez, on va se mettre dans l'ambiance. Ce matin, je vous propose de traverser l'Atlantique, hop, d'un coup. Nous voilà sur la côte Est, à une grosse heure et demie de route de New York. Welcome to Bethlehem. Bethlehem, c'est une ville industrielle. Et à la mairie, il y a eu un meeting de Bernie Sanders. Une nouvelle fois, il a été question de couverture santé. Chez les démocrates, c'est un thème de campagne centrale, la santé. Dans la salle, l'animateur demande combien de spectateurs ont une assurance privée et combien voudraient un système différent.
Sanders, Buttigieg, Klobuchar. What do they have in common? They know America is watching.
Healthcare is a top issue in the 2020 presidential race.
Je vais poser une question au public. Si vous pouvez lever la main pour qu'on voit combien d'entre vous ont une assurance privée au travail. Une assurance privée, on y va ? Combien ont une assurance privée ? Ok. Maintenant, parmi vous, combien seraient prêts à changer pour ce dont le sénateur a parlé ? Un système géré par le gouvernement ?
Évidemment, c'est un meeting de Sanders. Donc, enthousiasme hein, pour l'alternative au privé, ces démocrates qui voudraient un government-run system, une couverture santé qui dépendrait non pas de l'entreprise pour laquelle on travaille, mais d'un dispositif fédéral. Alors, pour l'heure, il faut quand même vous expliquer, c'est un logiciel très différent du nôtre. Les États-Unis sont l'un des seuls pays développés à ne pas avoir de système national d'assurance maladie. Plus de la moitié des Américains ont une couverture santé privée, via leur employeur. Et puis les autres, bah écoutez, on a 30% des Américains, en gros, qui sont couverts par une assurance fédérale, Medicare ou Medicaid, ça ce sont les gens qui ont plus de 65 ans ou qui sont invalides ou pauvres. Ensuite, on a 7% d'Américains environ qui s'assurent tout seuls. Et puis enfin, c'est le problème, 9% de la population qui n'a toujours pas d'assurance santé, c'était encore plus avant l'Obamacare. Au fond, la philosophie du système, c'est à chacun des soins selon ses moyens. Mais pour 2020, des candidats, donc comme Sanders et Warren, proposent une couverture santé élargie, voire universelle. Est-ce que les électeurs américains y sont prêts ? À Bethléem, notre reporter Isabelle Raymond a posé la question. À la mairie d'abord. Et à la mairie, vu ce que coûte l'assurance santé des employés municipaux, on répond oui, changeons.
So the new battleground tracker survey is out. What is the issue they want to hear the most from candidates about? According to our data, it's healthcare. And frankly, if it could be the second and third choice, it would be healthcare and healthcare again.
So we are here in City Hall in the city of Bethlehem.
Nous sommes ici à l'hôtel de ville de Bethléem.
Bethlehem is the
C'est la sixième ville de l'État de Pennsylvanie. Il y a environ 75 000 habitants. Et là, on est dans la salle que nous appelons la rotonde. Ici, on y tient nos conseils municipaux les premiers et troisièmes mardis du mois, deux fois par mois.
My name is J. William Reynolds.
Mon nom est J. William Reynolds et je fais partie du conseil municipal de Bethléem.
You take a position in
ici à Bethléem, vous avez décidé de prendre position. Dans le débat national. Pouvez-vous me dire quelle est la dernière résolution que vous avez adoptée?
Je crois que c'était le mois dernier. On a adopté une résolution en faveur d'une assurance santé universelle. Il y a en ce moment beaucoup de débats autour de l'avenir de notre système de santé. Nous, on essaie de poser le débat au niveau local. Les solutions nationales, c'est le boulot des gens à Washington, qui d'ailleurs en ce moment ne le font pas très bien. Moi, ce que je regarde, c'est ce que nous, comme ville, nous dépensons pour la santé de nos employés municipaux et à quoi sert cet argent. En 2005, on avait 670 employés. Aujourd'hui, en 2020, on en a 600. Et pourtant, nos dépenses sont passées d'environ 5,5 millions ou 6 millions de dollars par an à plus de 11,5 millions à 12 millions par an aujourd'hui. Donc nos frais de santé ont doublé alors que le nombre de nos employés a diminué. Cet argent, du coup, il ne va pas à la sécurité, à la rénovation des rues, à des investissements pour les quartiers. Ce sont des objectifs que le maire a, mais que l'on ne peut pas réaliser à cause des frais de santé qui ont augmenté.
Ce n'est pas parce que la municipalité ouvre le débat que tout le monde à Bethléem est favorable à une couverture santé universelle. Pour s'en rendre compte, direction le centre de soins de la ville, situé à 8 km de là. Voici Johanna et Louis Lombardi. Comme tous les Américains de plus de 65 ans, ils bénéficient du programme Medicare, financé à la fois par l'État fédéral et par celui de Pennsylvanie. Un programme public qui ne couvre pas tous leurs frais de santé et auquel ils ajoutent une assurance privée.
Moi, j'ai 93 ans et elle, 83.
Vous ne faites pas votre âge.
Je fais même des claquettes.
Dites-moi ce que vous avez comme assurance santé.
C'est mon mari qui s'occupe parce que je ne vois plus rien.
On a tous les deux Medicare. Elle paye un supplément de 243 $ par mois. Ce n'est pas cher du tout. Moi aussi, je paye un supplément de 234 $ par mois. On est très content de notre assurance santé.
Moi, j'ai fait une attaque et ça ne nous a pas coûté un centime. J'avais été hospitalisée pendant 6 semaines. Mes médicaments, la plupart du temps aussi, sont pris en charge par l'assurance. Souvent, ça ne coûte rien. Parfois, je dois débourser 8 dollars, 14 dollars. Pas beaucoup.
C'est un très bon système. Excellent, même. Pour rien au monde, je n'entrerais dans un système socialiste. Non. Comme en France ou en Angleterre. Pas question. Je voterai totalement contre. Parce que ce n'est pas bon. Ça n'existe pas, un pour tous et tous pour un. Ça ne fonctionne pas.
Pour ce républicain, impensable donc de passer à une couverture santé universelle. À quelques pas de là, toujours sur le parking du centre de soins, Myriam, prof de sociologie à l'université, n'est pas du tout du même avis.
I'm fortunate because I have a professional position.
J'ai de la chance, car j'ai un travail, et en plus je suis syndiquée.
So I knew the healthcare coverage would be good.
Cela me donne une bonne assurance santé, alors qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui n'ont pas les mêmes avantages que moi. La plupart de mes analyses sont prises en charge par mon assurance santé. Il y a des franchises, c'est comme ça que fonctionne l'industrie de la santé aux États-Unis. Par exemple, disons que votre franchise est de 1 000 $. Ça veut dire que vous devez sortir de votre poche le premier millier de dollars chaque année avant de pouvoir accéder aux soins. C'est un des mécanismes utilisés par les compagnies d'assurance pour gagner de l'argent. Je pense que c'est une mascarade. Le reste du monde occidental a un système de santé universel, pas nous. Je pense que c'est immoral de faire du profit sur la santé.
Au-delà de la question de la morale, se pose celle de l'efficacité du système de santé américain. Je quitte Bethlehem, direction New York, à 1h30 de route, où je dois rencontrer Sherry Glayed, qui dirige la plus importante école d'administration publique des États-Unis. Ce jour-là, elle participe à un séminaire à Hunter College, situé au croisement de Lexington et de la 68e rue. Rendez-vous au 15e étage, dans la salle de conférence.
Je m'appelle Sherry Glayed, je suis le... Dean, comment
doyenne
de l'école de service public à Robert F. Wagner à New York University, et je suis professeure d'économie et je spécialise dans l'économie de la santé.
Justement, vous avez un système de santé qui est très différent du nôtre ici aux États-Unis. Est-ce que ce système, vous en tant qu'économiste, est-ce qu'il permet de faire des économies, ou est-ce que finalement, quand vous comparez aux autres pays et notamment aux pays européens, est-ce que vous dépensez plus pour la santé que notamment la France, le Canada, l'Allemagne, etc.?
C'est deux fois plus cher en Amérique qu'en Europe, et cette augmentation du coût, ça serait bien si la santé des Américains était meilleure. La santé des Américains est pire que celle des Européens, alors c'est très inefficace.
Alors pourquoi est-ce que vous expliquez justement ce décalage entre le fait que vous dépensez beaucoup d'argent et que vous avez un système de santé qui est loin d'être satisfaisant?
La première est que les gouvernements en Amérique ne régulent pas les prix des services et des produits qui sont associés à la santé. La plupart des Américains qui ont moins de 65 ans reçoivent les assurances santé avec leurs emplois. Les coûts d'assurance sont élevés. Les employeurs qui doivent payer ces frais élevés pour l'assurance, alors les salaires des employés sont plus bas.
Est-ce qu'il ne serait pas temps, finalement, cet argent que les chefs d'entreprise dédié à ces assurances privées, oui, pour leurs salariés, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement qu'ils fassent comme chez nous, qu'ils payent des impôts peut-être plus importants et qu'on se retrouve avec un système de santé national, universel, qui soit financé par l'État fédéral?
Il y a beaucoup de moyens de faire un système d'assurance universelle. Celle de la France est l'une, mais l'Allemagne a un autre système, l'Australie a un autre système, Canada a un autre système. Mais les États-Unis, c'est l'unique exemple où les prix ne sont pas régulés.
Finalement, le coût de la santé, il pèse essentiellement sur les Américains.
Sur les Américains, oui. Et pas en impôts, mais en cotisations, on dit en anglais, les coûts qui en paient de la poche.
En 2016, aux États-Unis, 17% de la richesse nationale était consacrée à la santé, contre 11% en France, d'après une étude de l'OCDE. Un système à la fois onéreux et peu redistributif, totalement à bout de souffle, selon Michael Guzmano. Il est professeur de sciences politiques à l'université de Rutgers, dans le New Jersey.
I actually don't think Americans are particularly attracted.
Je ne crois pas que les Américains soient particulièrement attachés à notre système de santé. Quand vous regardez les sondages d'opinion depuis 20 ou 30 ans, la majorité des gens pensent que le système a besoin de changements majeurs. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les Américains qui ont une couverture santé ont peur que n'importe quel nouveau système soit synonyme de perte pour eux. Car une fois qu'on est dedans, ça fonctionne plutôt bien. Quand on a une bonne assurance santé, ici, on voit le médecin qu'on veut. Ils aiment le système actuel. Bien sûr, ils voudraient que la santé leur coûte moins cher, mais ils ont peur qu'en cas de changement, ils n'aient plus accès à des soins de qualité. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le système, soit parce qu'ils n'ont pas d'assurance du tout, soit parce qu'ils sont dans le programme Medicaid prévu pour les plus pauvres et qui rembourse mal, qui donne accès à peu de soins et peu de médecins, ou alors ils ont une assurance privée qui donne accès à peu de soins ou qui a augmenté les sommes que l'on doit à chaque fois sortir de sa poche avant de se faire soigner.
Est-ce qu'il y a de plus en plus d'Américains sans aucune assurance santé? Et si oui, est-ce un problème?
Le nombre de personnes sans assurance santé a dégringolé sous Obama et il est remonté un peu depuis, pas beaucoup, mais un peu sous l'administration de Trump qui a essayé de fragiliser l'Obamacare qui favorise l'accès des plus pauvres aux soins de santé. Un exemple, la période pendant laquelle vous pouvez souscrire une assurance santé a été réduite sous Trump. Ils ont aussi coupé le budget de publicité du programme et tout cela a réduit la portée de l'Obamacare.
Pensez-vous que les Américains sont prêts au changement?
Je pense qu'ils sont de plus en plus prêts au changement et qu'il serait impossible aujourd'hui de revenir en arrière sur l'Obamacare notamment. Avant 2010, les compagnies d'assurance pouvaient refuser de vous affilier si vous étiez déjà malade parce que vous représentiez un risque trop important. Les Américains n'étaient pas contents mais acceptaient tout de même cette façon de faire. Je ne pense pas que quelque Américain que ce soit, quelle que soit sa couleur politique, accepterait de revenir à ce genre de situation aujourd'hui.
The US has slowly moved toward a more social insurance approach.
Les États-Unis vont doucement vers une approche plus sociale de l'assurance santé où les riches subventionnent les pauvres et les personnes en bonne santé subventionnent les plus malades.
That's the standard of fairness that most of the world accepts.
C'est la norme d'équité acceptée partout dans le monde et je pense que les États-Unis, même si c'est peut-être à contre-cœur, vont dans cette voie-là.
Le système de santé et son financement au cœur des primaires américaines, c'était le reportage d'Isabelle Raymond.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et notre invité ce matin, c'est un économiste français, professeur en Californie, à Berkeley, et auquel le New York Times vient encore, c'était hier, de consacrer un long article pour son rôle dans la campagne auprès des démocrates. Bonjour Gabriel Zucman.
Bonjour.
Alors l'article ne concernait pas que vous, il concerne également votre confrère Emmanuel Cez, avec qui vous signez ce livre, Le Triomphe de l'Injustice. Ça paraît au seuil aujourd'hui en France, mais en fait c'est paru en novembre dernier aux États-Unis. C'est une enquête sur le système fiscal américain, et justement vous y parlez de la santé. Depuis les années 90, il y a déjà eu des tentatives pour créer une assurance santé universelle. Deux projets qui ont échoué. Qu'est-ce qui a bloqué? Est-ce que ça manquait de soutien des citoyens?
Non, parce que une majorité d'Américains se rend compte que le système de santé tel qu'il existe ne fonctionne pas. Les performances sont très médiocres. L'espérance de vie a baissé aux États-Unis en 2015, en 2016, en 2017, avant de se stabiliser en 2018. La mortalité infantile est plus élevée que dans les autres pays développés. La mortalité au moment des accouchements aussi. Des performances très médiocres pour un coût considérable. 18% du PIB aux États-Unis contre 10-11% dans la plupart des autres pays de l'OCDE. Et ce coût repose très lourdement sur les classes populaires, les classes moyennes, les travailleurs qui doivent payer en moyenne 13 000 $ par an.
Ouais, ça fait à peu près 1 000 € par mois.
À peu près 1 000 € par mois, exactement, en prime d'assurance à des compagnies d'assurance privées. Donc c'est autant d'argent qu'ils n'ont pas sur leur compte en banque. Et ce qui a bloqué dans les tentatives de réforme précédentes, c'est qu'il y avait personne qui avait réussi à bien expliquer comment remplacer ces primes d'assurance privées par des impôts. Voilà, c'est-à-dire comment faire la transition vers une assurance maladie universelle. Une des choses qu'on explique dans notre livre Le Triomphe de l'Injustice, c'est comment faire cette transition. Et en gros, il faut remplacer ces primes qui sont aujourd'hui forfaitaires. Tout le monde paye plus ou moins 13 000 $ par des impôts sur le revenu qui soient au moins proportionnels, ou peut-être plus que proportionnels au revenu. Et si les États-Unis faisaient ça, pour 90% de la population, il y aurait des gains parfois très substantiels de revenus nets après impôts, de potentiellement 10 000 dollars par an.
Gabriel Zucman, le triomphe de l'injustice, si je reprends le titre, c'est qu'aux États-Unis, en 2020, finalement, plus on est pauvre, moins on est soigné, et plus on est riche, moins on paie d'impôts.
C'est un bon résumé, c'est-à-dire que quand vous prenez en compte l'ensemble des prélèvements obligatoires aux États-Unis, à tous les échelons, le gouvernement fédéral, les États, les collectivités locales, le système fiscal américain ressemble à un gigantesque impôt proportionnel où tous les groupes de la population payent environ 28% de leurs revenus en impôts, avec une seule exception notable, c'est les milliardaires qui en 2018, l'année qui a suivi la réforme fiscale de Donald Trump votée en 2017, ont eu un taux effectif d'imposition de seulement 23%. Pour la première fois depuis plus de 100 ans, un taux d'imposition inférieur à celui des classes populaires américaines.
Et pourtant, vous le décrivez très bien, ça n'a pas toujours été comme ça. Les Américains n'étaient pas habitués à ça. La bascule, finalement, c'est Reagan qui l'a fait.
C'est Reagan. Et alors, avant de comprendre cette bascule, il faut se rappeler de la tradition de progressivité fiscale aux États-Unis. Les États-Unis ont été très loin dans l'utilisation de l'outil fiscal pour réguler les inégalités, avec des taux marginaux supérieurs d'imposition de plus de 90%. Dans les années 40, les années 50, jusqu'au début des années 60. Quand Reagan rentre à la Maison Blanche en 81, le taux marginal supérieur d'imposition sur les plus hauts revenus est encore de 70%, ce qui est un des plus hauts dans les pays riches. Et en 86, il est diminué à 28%. C'est la grande réforme fiscale de Reagan. 28% en 86, c'est le plus bas de tous les pays industrialisés. Donc en 5 ans, il y a cette révolution reaganienne qui a été un puissant moteur d'accélération des inégalités aux États-Unis.
Et donc votre proposition, celle que vous faites dans le livre, c'est qu'il faut taxer ces super riches. Hein. Comment est-ce que vous... Oui, non ?
Si, ce qu'on essaie de faire, c'est de d'aider les Américains et le public hein, dans tous les pays à renouer avec la tradition de justice fiscale américaine. D'abord, à essayer d'en tirer les leçons. Donc, qu'est-ce qui se passait quand les très hauts revenus étaient imposés lourdement? La croissance était plutôt forte, la croissance était équitablement distribuée. Renouer avec cette tradition, en tirer les leçons, et puis essayer de comprendre comment on peut l'adapter, la moderniser pour le 21e siècle, pour la situation actuelle.
Comment vous l'avez expliqué? Enfin, maintenant, c'est Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Vous travaillez comment avec eux aujourd'hui? Puisque visiblement, ce sont eux qui ont repris. On dit que vous êtes les conseillers.
Oui, alors une des façons de moderniser cette tradition de progressivité fiscale, c'est via un impôt sur les très grandes fortunes, qui est une des propositions phares formulées par Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Donc, pour rappeler leur proposition, Elizabeth Warren propose de taxer les fortunes au-delà de 50 millions de dollars à un taux de 2% et au-delà de 1 milliard de dollars à 6%. Bernie Sanders a une proposition assez similaire. Son impôt sur la fortune commence à 32 millions de dollars, à un taux de 1% entre 32 millions et 50 millions. Puis le taux monte progressivement jusqu'à 8% au-delà de 10 milliards de dollars de patrimoine. Donc nous, on a travaillé avec leurs équipes qui nous ont contactés pour essayer de chiffrer les recettes fiscales, le nombre de contribuables qui seraient concernés par ces propositions et puis essayer de travailler avec eux sur l'implémentation concrète.
La mise en œuvre.
C'est-à-dire comment faire en sorte que ces impôts fonctionnent bien et en particulier, quelles leçons tirer de l'expérience européenne avec l'imposition des fortunes? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont eu des impôts sur la fortune.
Et ils les ont supprimés comme en France. Il y a des critiques aux États-Unis. Hein. Ce livre a fait énormément de bruit. On critique vos calculs. Alors moi, j'irai pas sur ce terrain-là. En revanche, il y a cet argument qui a sous-tendu la suppression de l'ISF en France. Ah, si vous taxez les super riches, ils vont partir.
Oui,
vous allez casser la croissance.
Alors, il faut bien le dire qu'il y a des leçons à tirer de l'expérience européenne et l'ISF avait des limites. Mais simplement, il faut sortir du défaitisme et du nihilisme qui consiste à dire « Oh, il y a des problèmes, donc la seule solution, c'est de supprimer l'impôt. » Non, nous, on a une approche plus constructive qui consiste à dire « Essayons de comprendre comment faire mieux. » Alors. Ce qui était central dans le débat sur l'ISF en France, c'était, comme vous l'avez rappelé, cette idée que la France ne peut pas être la seule ou un des seuls pays au sein de l'Union européenne à taxer les grandes fortunes parce qu'elles vont s'expatrier. Ce que font les États-Unis, c'est qu'ils disent « Oh, les Américains qui s'expatrient doivent continuer à payer des impôts jusqu'au restant de leur jour aux États-Unis, s'ils ont la nationalité américaine. Et si ils choisissent de renoncer à la nationalité américaine, dans la proposition Warren, par exemple, il y a une exit tax de 40% sur leur fortune. » Alors, moi, je pense pas qu'il faille forcément être aussi extrême, mais ce que fait la France actuellement est extrême dans la direction inverse. C'est-à-dire que si vous êtes un milliardaire aujourd'hui en France et vous choisissez de vous expatrier en Suisse ou en Belgique, au 1er janvier 2021, vous n'avez plus aucun impôt à payer en France. Ça semble pas souhaitable non plus. Donc, une des idées qu'on défend consiste à dire on peut peut-être avoir un entre-deux où si vous avez été résident fiscal en France pendant 20, 30 ans, 40 ans et que vous vous expatriez, vous allez devoir continuer à payer des impôts en France pendant 5 ou 10 ans.
Gabriel Zucman, vous, votre idée c'est de réduire les inégalités via la fiscalité. Aujourd'hui, en France, on a une équipe dirigeante, on a un exécutif qui dit non, mais c'est pas la bonne approche. Nous, notre approche, c'est donc une autre politique que celle que vous préconisez. Et nous, on fait tout pour faire diminuer le chômage. Finalement, quand vous regardez les chiffres, la politique Macron économique, ça marche?
Il faut pas opposer ces deux objectifs. Hein. Faire diminuer le chômage, c'est très important. Et réduire les inégalités, empêcher qu'elles augmentent autant qu'aux États-Unis, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'on aurait bien tort d'attendre que la situation se détériore autant en France qu'elle ne s'est détériorée aux États-Unis avant de se préoccuper de l'augmentation des inégalités.
Vous pensez que la politique fiscale de Macron va pas dans le bon sens? Vous avez même dit, ça me rappelle Reagan.
En tout cas, les mesures qui ont été prises au début du quinquennat Macron, la suppression de l'ISF et son remplacement par l'impôt sur la fortune immobilière, l'adoption d'une flat tax sur les revenus du capital, la baisse de l'impôt sur les sociétés dans un processus où on va baisser le taux à 25% à l'horizon 2022, ces mesures-là, il y en a eu d'autres après en
oui,
réponse au mouvement des Gilets jaunes,
ouais,
mais ces mesures-là au début du quinquennat Macron ressemble, toute proportion gardée, à ce qui a pu être fait dans les années 80 par Reagan. Dans les deux cas, il y avait un certain unanimisme, c'est-à-dire qu'il y a 97 sénateurs sur 100, il faut le rappeler, en 1986, qui ont voté la grande réforme fiscale de Reagan avec le défaitisme qui avait aussi gangréné les esprits. Oh là là, on peut plus taxer les riches, il n'y a pas d'autre solution.
Donc vous dites que la politique est plus forte que l'économie, en fait. Vous dites que la volonté politique peut vaincre le fatalisme.
Oui, et puis aussi, on peut innover, donc il faut prendre au sérieux les défis que pose la mondialisation pour la taxation des multinationales, la taxation des grandes fortunes, mais on peut apporter des solutions innovantes et c'est ce qu'on essaye de faire dans ce livre.
Ce livre qui s'appelle Le Triomphe de l'injustice, c'est publié au Seuil et c'est donc signé Emmanuel Saez, Gabriel Zucman. Ça se lit comme ça s'écoute, allez-y, faites-moi confiance. Merci Gabriel Zucman d'avoir
Merci
été sur France Inter. Sandrine, vous nous parlez ce matin d'un rapport qui est resté dans les tiroirs du ministère de la Santé et qui concerne le suicide.
Oui, tous les ans, depuis sa création il y a 7 ans maintenant, l'Observatoire National du Suicide remet son rapport au ministère de la Santé. En général, il le fait quelques jours avant la journée nationale de prévention du suicide, le 5 février. Cette année, une conférence de presse était bien prévue, 2 jours avant, mais elle a été annulée pour cause de coronavirus. On veut bien croire que le ministère ait été fort secoué ces dernières semaines, mais voilà, le rapport de l'Observatoire National du Suicide n'a toujours pas été rendu public. C'est ce que dénonce l'un de ses auteurs. Dans une tribune publiée mardi dernier, le psychiatre Michel Debout demande à Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, de publier ce document intitulé pour 2020 « Travail, chômage, suicide ». Car là aussi, il y a urgence. Tous les jours, 30 personnes se donnent la mort en France et 300 tentent de le faire. Ces chiffres sont heureusement en baisse. En 30 ans, nous sommes passés de 14 000 à 9 000 décès par an. Mais la France reste dans la moyenne haute en Europe et le nombre de tentatives, lui, ne décroît pas.
Sandrine, là, vous nous parlez de chiffres qui concernent toute la population. Mais si on regarde seulement les entreprises, est-ce qu'elles peuvent améliorer la prévention?
Oui, le suicide touche aussi bien les jeunes que les personnes âgées et évidemment les adultes qui travaillent. On se souvient cette année de Christine Renon, la directrice d'école de Pantin. Mais on pourrait faire la triste litanie des agriculteurs, policiers, personnels médicaux et de tous les salariés qui mettent fin à leur jour. Le travail n'est pas toujours en cause, mais il peut être un facteur aggravant. On l'a vu avec la condamnation de France Télécom pour harcèlement institutionnel. Un jugement au pénal qui n'a d'ailleurs entraîné aucune prise de décision des pouvoirs publics. Le psychiatre Michel Debout rappelle pourtant que si les pensées suicidaires sont présentes chez 20% de la population générale, ce chiffre double lorsqu'on interroge des salariés en situation de harcèlement moral ou sexuel au travail. Les actifs, ce sont aussi les chômeurs. Des chercheurs australiens qui ont compilé plusieurs études montrent que le chômage multiplie par 3 le risque de suicide. Donc oui, des actions de prévention sont nécessaires. Ça peut passer par une visite médicale à l'annonce d'un licenciement, par un retour en force des comités d'hygiène, de santé et des conditions de travail qui ont été fondus dans les nouveaux comités d'entreprise. La base, c'est aussi de revoir les organisations du travail. Donc oui, on attend la publication du rapport « Travail, chômage, suicide » pour en débattre.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, toute l'équipe du Mag Éco vous souhaite un excellent week-end